Bonsoir, bienvenue dans cette édition de Céline de la Presse qui vous présente trois thèmes, à savoir Assemblée nationale, l'adoption mercredi dernier de la nouvelle loi électorale. Parmi les innovations, les candidats à la présidence, à la députation et au gouvernorat doivent avoir au moins un diplôme de garde du roi. Aussi, chaque circonscription électorale sera dotée d'un centre de compilation. Ensuite, le Premier ministre Adolphe Mouzito a eu une séance de travail mercredi dernier avec les administrateurs et directeurs généraux de la Régie des Eaux et de la SNEL. Cette rencontre a eu comme retombée la conclusion hier jeudi d'un programme estimé à plus de 51 millions de dollars pour la SNEL et 4 millions pour la Régie des Eaux. Enfin, la base militaire de Kitona, à 10 km de la cité de Mwanda dans la province du Bas-Congo, est rouverte à la formation des sous-officiers et par défaut depuis mardi dernier. Participent à ce débat trois confrères journalistes. Il s'agit de Bélard Mboui, l'éditeur du journal Echo de Grand-Lac. C'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Bonsoir Bélard Mboui.
Bonsoir.
Bienvenue Marie Bakoumbania, il est directeur de programme à Télé 7 et rédacteur en chef du journal Le Potentiel. C'est un groupe de presse basé ici à Kinshasa. Bonsoir, bienvenue Marie Bakoumbania.
Bonsoir, Guy.
Baba Isaac Talongi, il est journaliste et analyste indépendant évoluant à Mbujimayi au Kasaï oriental. Bonsoir, Baba Isaac Talongi.
Je vous salue, chers estimés confrères.
Adoption à l'Assemblée nationale du projet de la loi électorale, rencontre Mouzito et les ADG de la Régie des Eaux de la SNEL, ainsi que réhabilitation de la base militaire de Kitona. Pour savoir comment la presse a traité ces différents thèmes, écoutons cet avis de presse que nous propose Samuel Kachaka.
Bonsoir. Le vote de la loi électorale à l'Assemblée nationale et la rencontre d'Adolphe Mouzito avec les responsables de quelques entreprises publiques du secteur de l'énergie figurent parmi les sujets développés par les journaux Paris cette semaine à Kinshasa. Concernant le premier sujet, la tempête des tropiques titre, malgré les pièges tendus par les pro-kabilistes, la loi électorale a été adoptée à la Chambre basse du Parlement. Selon ce journal, 363 députés sur 365 présents à la séance plénière du mercredi dernier ont approuvé cette loi qui a été envoyée au Sénat pour examen et adoption en seconde lecture. L'avenir qui parle de cette nouvelle loi électorale adoptée titre « C'est non, pas de seuil, pas de 24 circonscriptions à Kinshasa ». Selon ce journal, la ville de Kinshasa reste divisée en 4 circonscriptions sur base d'anciennes sous-régions ou districts. Il s'agit de Tsangu, Mohamba, Funa et Lukunga. Le palmarès de son côté pense que le vote de ce projet de loi à la Chambre basse du Parlement constitue une avancée de taille pour le processus électoral. Un autre sujet de cette tribune de presse, c'est la rencontre d'Adolphe Mouzito avec les responsables de quelques entreprises publiques du secteur de l'énergie. À ce sujet, le PAR rapporte qu'Adolphe Mouzito exige des services de qualité dans ce chantier eau et électricité. Le potentiel de son côté pointe du doit la SNEL, la rendant responsable des différentes poches noires enregistrées ces derniers temps à Kinshasa. Terminons cette revue de la presse avec la réouverture de la base militaire de Kitona au Bas-Congo. À ce sujet, Forum des As estime que cette réouverture de l'école de formation des sous-officiers de Kitona intervient 24 ans après l'interruption de son fonctionnement. Cela a coïncidé avec la fin de la formation du 21e régiment d'infanterie formé dans cette base militaire.
Merci Thomas Katia. Un petit commentaire par rapport à la vie de presse que nous venons d'écouter. Bélard Mboui, vous êtes éditeur du journal Echo de Grand Lac, c'est un hebdomadaire qui paraît ici à Kinshasa. Votre commentaire par rapport au travail de la presse, il y a aussi fait état de la clôture de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature.
Bien, disons que tout ce qui a été fait a été fait dans les règles de l'art. Moi, j'ai plutôt noté que nous n'avons pas suffisamment appuyé l'hommage qui aurait pu mériter un fils digne de ce pays qui a reçu le prix international Laura Baudouin en Belgique, c'est-à-dire le docteur Denis Mukwege de Bukavu, non pas tant simplement en fonction du prestige de ce prix, mais aussi et surtout en fonction du combat que mène cet homme ici au Congo. Je crois que la presse aurait certainement mieux gagné en présentant cet homme à la nation et au monde, parce que Dr Mukwege Denis mène un combat extrêmement noble en portant secours à nos nombreuses compatriotes qui sont victimes de violences sexuelles dans cette partie de l'Est du Congo. Franchement, Mukwege mérite vraiment l'hommage de toute la nation.
Merci, bienvenue Marie Bakoumania. Vous êtes directeur du programme à Télé 7 et rédacteur en chef du journal Le Potentiel, un groupe de presse basé ici à Kinshasa. L'actualité a été aussi dominée par cet accident de circulation routière sur la nationale numéro 1, axe de Kinshasa qui a causé 19 morts et plusieurs blessés.
Oui, absolument. Il n'y a pas longtemps, on a enregistré plusieurs noyades sur la rivière Kasai ainsi qu'au lac Kivu-Tanganyika. C'est-à-dire que le secteur des transports et voies de communication mérite également une attention particulière. Curieusement, au niveau du gouvernement, il n'y a aucun animateur qui s'occupe actuellement au quotidien de ces postes. Et c'est le ministre des Mines qui est en train d'assumer l'intérim du ministre des Transports et voies de communication. Mais on va encore déplorer d'autres morts, pour d'autant plus que sur le terrain, rien n'a évolué, rien n'a été arrangé. Mais seulement, je voulais vous revenir sur le vote de la loi électorale pour constater qu'une fois, les députés ont parlé le même langage. Et curieusement, les députés parlent le même langage lorsqu'il s'agit de problèmes qui les touchent personnellement. Lorsqu'il s'agit de problèmes de la nation, ils sont toujours divisés.
Merci, Baba Isaac Talambi. Vous êtes journaliste et analyste indépendant évoluant à Mbujimayi au Kasaï oriental. Quelle est l'actualité à la ligne à Mbujimayi?
L'adoption de la loi électorale par la Chambre basse, c'est une nouvelle qui a été suivie avec intérêt par les populations victimes de la mauvaise fourniture d'eau et victimes de beaucoup de choses. C'est-à-dire que les Kasaïens ont accueilli avec joie cette consécration de la loi électorale impersonnelle opposable à tous. Pour une fois, nous sommes étonnés aussi au passage de voir les parlementaires se mettre d'accord pour mettre en place une loi impersonnelle, opposable à tous, à étonne. Et je crois que nous sommes sortis de l'apprentissage politique vers l'effectivité de la gestion de la cité.
Merci. Notre premier thème de ce soir, Assemblée nationale, adoption mercredi dernier de la nouvelle loi électorale. Parmi les innovations, les candidats à la présidence, à la députation et au gouvernorat doivent avoir au moins un diplôme de graduat. Aussi, chaque circonscription électorale sera dotée d'un centre de compilation. La nouvelle loi électorale a été adoptée dans son intégralité mercredi à l'Assemblée nationale. Sur 367 députés présents au moment du vote, 365 ont dit oui. Et deux se sont abstenus. Parmi les innovations, les candidats à la présidence, à la députation et au gouvernorat doivent avoir au moins un diplôme de graduat. Aussi, chaque circonscription électorale sera dotée des centres de compilation. Quelles sont les autres innovations de cette loi, telle qu'adoptée à la Chambre basse du Parlement? Réponse avec l'honorable Faustin Kambala Ilunga, président de la Commission politique administrative et judiciaire de l'Assemblée nationale. Il est au téléphone de Kéline Coupé.
Les innovations que cette loi a apportées, c'est d'abord la réduction du nombre de tours pour l'élection du président de la République. Cette innovation, nous l'avons introduite pour nous conformer à la nouvelle constitution révisée. En dehors de ça, il y a aussi cette fois-ci, les centres de compilation seront implantés dans les circonscriptions électorales et de la sorte, les opérations vont s'effectuer sans qu'il ne soit question de parcourir de longues distances et éviter aussi pour cela la fraude électorale qui a été tellement décriée en 2006. Il y a aussi la réactualisation de la caution. Nous avons réduit la caution pour permettre quand même à tout le monde de participer aux opérations électorales. Cette loi introduit les chefs coutumiers comme membres de droit des conseils, recteurs et des chefferies pour permettre quand même à ceux-là de gérer les entités à la base.
Nous allons lire les unes de certains journaux. Nous avons le quotidien Forum des As qui dit « Retombée du vote du projet de loi électorale à l'Assemblée nationale. La réduction des communes de Kinshasa à circonscription électorale réussie. » Nous avons le quotidien Le Palmarès qui dit « Élection 2011, le projet de loi électorale adopté. » Nous avons le quotidien La Partie des Tropiques qui dit « Malgré le piège tendu par les partis présidentiels, la loi électorale votée à la Chambre basse de l'Arménie. Vous, comment vous avez accueilli l'adoption de la loi électorale par l'Assemblée nationale?
Bien, disons qu'il y a d'abord certaines choses qui s'imposaient de soi. Il s'agissait de consacrer et de conformer la loi électorale à la révision de la Constitution qui avait été opérée il y a quelques mois. Donc, c'est-à-dire que indiquer dans la loi électorale que l'élection présidentielle se fait en un seul tour. Ça s'imposait de soi. Bien, cela étant, il y a dans ce projet de loi des choses que moi j'avais approuvées et d'autres que je n'ai pas approuvées. Parmi les choses que moi j'approuvais, j'étais d'accord à ce qu'on puisse établir un seuil de représentativité. Cela aurait permis certainement de faire une certaine sélection parmi les partis politiques. Les plus petits étant éliminés, ça nous permettrait de gagner en visibilité sur les plans politiques.
Donc, le scrutin proportionnel avec un seuil de 10% comme proposé par le gouvernement.
Exactement, mais je comprends tout aussi bien le fait que les députés ne pouvaient pas se tirer une balle dans le pied. Parce que nombreux n'auraient jamais été élus si on appliquait cela. On n'avait pas demandé à quelqu'un de se faire harakiri lui-même. Bien, mais cela étant, moi je ne comprends pas pourquoi, parce que cette loi avait déjà le même projet, avait déjà été présenté en tant que proposition de loi par le député Célestin Toundaya Katende en avril,
et que aussi député de
la majorité présidentielle. Et le 11 avril, cela avait été rejeté par 381 votants à l'Assemblée nationale. Seuls deux avaient pu être d'accord. Je n'ai pas compris le pourquoi de remettre encore le même projet par le gouvernement, à essayer d'influencer les députés à travers leur chef de parti. Cela n'a pas marché. Et la dernière chose que je pourrais dire, c'est celle-ci. Parmi les choses qui ont été adoptées, je ne vois vraiment pas l'intérêt qu'il y a à mettre aujourd'hui la condition du diplôme de graduat. Je me souviens, en 2005-2006, lorsqu'on a adopté la première loi électorale, la première mouture qui nous a tenu à l'élection de 2006, le critère du diplôme avait été cassé. Je vois encore lui, monsieur, était même venu juste ici. Il s'était opposé, il avait dit qu'il ne faut pas mettre des critères censitaires, ceux qui sont destinés à éliminer certains candidats. Je ne comprends pas pourquoi la même majorité qui hier s'opposait à ces critères est la même qui aujourd'hui vient le remettre.
Il y a évolution.
Après, je ne sais pas s'il y a évolution, mais c'est important de noter le fait que, avec ce critère par exemple, de nombreux dirigeants africains qui sont pourtant salués comme les meilleurs gestionnaires de leur pays. Je cite un exemple, Théodoro Obiang-Nguema de Guinée équatoriale, Paul Kagame du Rwanda, Jacob Zuma d'Afrique du Sud, n'aurait jamais été élu au Congo parce qu'il n'a pas de diplôme de graduat.
Bon,
oui, non, c'est connu, je connais leur biographie, lisez leur biographie. Jacob Zuma n'a même pas de diplôme d'État, mais c'est un dirigeant efficace, admiré par la communauté internationale entière. Des premiers ministres aussi brillants que John Major de Grande-Bretagne et Pierre Bérégovoy de France n'auraient jamais été élus. Et je termine par Moïse Katumbi, qui est le meilleur gouverneur du Congo, admiré par tous, opposition comme majorité, n'aurait jamais été le gouverneur si on appliquait ce genre de principe.
Bienvenue Marie Bakoumania, toutes les grandes options proposées par les gouvernements ont été rejetées. Hein. Les modes de scrutin mixte qui combinent la proportionnelle et les modes majoritaires, l'apparentement des listes électorales, le scrutin proportionnel avec un seuil de 10%, la transformation des communes de Kinshasa en circonscription électorale, la caution, la parité, c'est des options qui ont été proposées par le gouvernement, mais elles ont été rejetées. Comment on peut expliquer cela? C'est la stratégie de la majorité qui n'a pas été efficace ou il y a une explication à cela?
Il y a une explication, c'est une affaire de survie politique. Hein. Les députés, ne se retrouvant pas à travers la loi proposée par le gouvernement, ne pouvaient que la rejeter.
Et même les députés de la majorité?
Absolument, même là, Bénard a fait une démonstration que la loi proposée, la proposition de loi de Maître Tunda avait été rejetée au mois d'avril. Cet entêtement de la majorité a fait perdre tout à la République du temps, du précieux temps qui risque même d'avoir une incidence sur le calendrier électoral si l'on y prend garde. Mais le contraire aurait d'ailleurs surpris. Les députés n'allaient pas se tirer une balle dans le pied, ils n'allaient pas accepter de se mettre en position de ne plus revenir à l'hémicycle.
Et on comprend que la majorité puisse proposer un texte qui préjudicie les intérêts de ses membres. Exactement.
Mais justement, c'est ce qu'on a toujours déploré. La majorité a toujours fonctionné sur base des consignes qui se font par SMS, ce n'est pas un secret. Je ne livre pas des secrets de Dieu. Et là, les députés se sont dit, ben, les mêmes SMS n'ont pas été pris en compte. Parce que là, c'est la survie même de ces députés qui étaient en jeu et ils n'ont pas voulu se livrer à ces jeux. Mais ceci dit également que le mode de fonctionnement de la majorité n'a pas toujours été un mode de fonctionnement basé sur un idéal quelconque. On constate que très souvent, ça se passe par des consignes et des consignes, nous savons ce qu'il y a toujours derrière les consignes, c'est-à-dire des motivations. Et là, apparemment, les motivations n'ont pas suivi et les gens se sont dit, ben, entre la survie politique et les motivations ponctuelles, bon, ils ont fait un choix.
Baba Isaac Kalonji, votre réaction par rapport à l'adoption de la loi électorale par l'Assemblée nationale?
Au passage, l'ensemble où je vis, il y a une réaction favorable et défavorable. Favorable parce qu'on a adopté une loi impersonnelle, non taillée sur mesure. Défavorable parce que la condition des diplômes, on sait que ceux qui sont au pouvoir, la majorité, ont géré pendant 4 ans et demi. Ils ont pu se faire l'argent et même obtenir des diplômes dans des institutions universitaires non connues par l'État et qui fonctionnent à la fois comme je fais plus. Et ils se sont fait graduer à titre et ils ne sont pas capables de prendre.
Allô, Baba Isaac Kalonji. Apparemment, nous avons perdu. Parmi les innovations, les centres de compilation seront désormais installés dans chaque territoire. Hein. Nous nous rappelons les débats que cette question des centres de compilation avait soulevé en 2006. Vous pensez que avec cette innovation, les choses pourraient changer, que la transparence sera de mise?
En principe, oui. En principe, oui. Parce que moi, j'avais également beaucoup plaidé en ce sens-là. Je me souviens même encore, vous savez, le régime du Marcel Mobutu était un régime particulièrement décrié, mais lorsque Mobutu organisait quand même des élections à l'époque, je me souviens, j'habitais à Kananga, j'étais encore très jeune, lorsque il y a eu les élections de 1987. Le même jour du vote, lorsque on a fermé le bureau, ceux qu'on pouvait appeler les centres de compilation, et ils sont partis à la mairie de la ville, en présence du maire de la ville, c'était l'actuel porte-parole du PRD, le professeur Bongeni. Ils sont venus dans son bureau, ils n'ont pas dormi, chaque candidat avec ses témoins, ils ont compté tous les bulletins de vote, et à 5 heures du matin, tout le monde avait les résultats de la ville. Donc, on a attendu la proclamation officielle qui n'a fait que confirmer les résultats que tout le monde connaissait. Je me souviens encore même de l'ordre de succession des candidats qui avaient été élus. Enfin, je m'intéressais beaucoup à la chose politique. Bien, je crois que si on fait pareil aussi, il y a moyen de réduire assez sensiblement les codes. Mais en même temps, lorsque vous regardez le calendrier qui a été publié par la CENI, entre le jour de l'élection et le jour de la publication des résultats des législatives, ça vous prend presque 2 mois. C'est du temps pour, pendant lequel il y a beaucoup de choses. Voilà exactement. Ça, on peut profiter pour ça des manipulations et frauder. Moi, je suis d'avis qu'avec ce système de compilation au niveau de chaque territoire, avec le système satellite dont le président Ngoïmoulounda parlait, qui peut permettre une communication très rapide, les élections législatives, on peut publier les résultats 3 jours après.
Bienvenue Marie Bakoumaya, la généralisation de la présence des témoins à tous les niveaux des scrutins jusqu'au niveau des centres de compilation, avec obligation de signer les procès verbaux, c'est aussi une innovation. Vous pensez qu'avec cette nouveauté, la tendance sera aussi de mise? On n'ira pas cette fois-ci, les procès verbaux ont été signés, à notre insu.
Oui, là c'est une bonne évolution. La loi a ainsi fait obligation aux partis politiques d'être présents là où on aura à faire le comptage de voix. C'est une bonne évolution et là, ça permet quand même d'avoir déjà les résultats comme Bélard vient de dire tout à l'heure. Peut-être même le lendemain du scrutin. Ainsi, déjà au niveau des circonscriptions qui se transforment en bureau de dépouillement, on peut déjà avoir des résultats, on peut se faire une idée.
il serait difficile, lorsque chacun aurait en sa possession les résultats, il serait difficile qu'on ait des centres de complications, comme on l'avait appelé à l'époque en 2006, installés ici à Kinshasa, qui désigneraient des députés en lieu et place de la population. C'est une bonne évolution, mais seulement, là, ce sont des grands partis qui seront favorisés, et pour des raisons à tout seigneur, tout honneur, s'ils sont grands, ils ont la possibilité de déployer suffisamment de témoins à travers les bureaux, parce que ce serait tout à fait normal. Et là, j'ai comme l'impression, à voir comment ça se passe actuellement avec l'opération de révision des fichiers électoraux, beaucoup de partis n'ont pas envoyé les gens, des témoins, particulièrement les partis d'opposition. J'ai fait la ronde, j'ai constaté que les partis d'opposition n'ont pas envoyé, j'ai constaté que le Palou s'était bien déployé, j'ai constaté également que le PPRD s'était bien déployé, peut-être qu'ils ont suffisamment de moyens et que les autres n'ont pas de moyens pour maintenir des gens des journées entières à ces endroits-là, mais c'est un risque qu'il faut prendre. C'est maintenant, si on veut avoir des élections apaisées et que tout le monde accepte les résultats des urnes, les partis d'opposition doivent également s'impliquer et envoyer des témoins pour qu'ils puissent venir au grain. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on n'envoie pas de témoins et demain on commence à dire, on commence à décrier les résultats qui sortiront des urnes.
Merci Baba Isaac Kalonji, la réalisation maintenant que vous êtes de nouveau en ligne.
Oui, je suis
en ligne. OK. Par rapport au vote des Congolais et des étrangers, l'article 5 qui a été adopté a suscité un débat. Hein. Cet article dit que seuls les Congolais se trouvant sur le territoire national au moment des élections pourront voter. Hein. Donc les Congolais de la diaspora qui voudront voter seront obligés de revenir au pays. Et, bon, certains experts ont dit que cela viole l'alinéa 4 de l'article 5 de la Constitution.
Chers confrères, je suis certain que c'est dans la mesure où on ne sait pas imiter, que celui qui n'a jamais imité ne sera jamais original, qui Victor Hugo. Est-ce que ailleurs, les autres nations dont les ressortissants habitent l'étranger au moment du vote font du mal en soi, à moins qu'on craigne autre chose? Ici, par exemple, en Bougival, on a arrêté hier un sujet rwandais qui est allé dans un centre pour se faire enrôler. Il vient au Congo se faire enrôler, mais qu'un Congolais ressortissant du pays ne vote pas. Et ce sont des choses qu'on refuse à ces gens leurs droits, mais tout dépend du résultat auquel les gouvernants en place veulent arriver. C'est ce que nous comprenons. Parce que priver le droit à ces Congolais, et accepter que les étrangers qui sont au FASA ici s'enrôlent, ils ont été arrêtés de chorer devant les cours de tribunaux, mais on ne connaît pas la suite qui va suivre, mais c'est ça le pays.
Oui, il y a aussi une autre innovation, hein, c'est par rapport à la sécurisation des candidats présidents de la République. Il est dit que chaque candidat président de la République sera doté de 25 policiers à charge du trésor public. Avec 25 policiers pour chaque candidat, est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que c'est facile d'entretenir 25 policiers, même si c'est repayé par l'État, mais les transports, la nourriture, c'est à charge du candidat? Est-ce que c'est facile d'entretenir 25 policiers?
Mais l'avantage, c'est quoi? C'est que ceux qui sont au pouvoir, qui sont dans la gestion, auront la possibilité de supporter leurs délégués, et ceux qui n'ont pas été aux affaires doivent se débrouiller. On ne vient pas en politique main vide pour venir faire la politique. Il faut être doté de moyens personnels pour faire face à des dépenses de campagne.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, le Premier ministre Adolphe Mouzito a eu une séance de travail mercredi dernier avec les administrateurs, directeurs généraux de la Régie des Eaux et de la SNELD. Cette rencontre a eu comme retombée la conclusion hier réduite d'un programme estimé à plus de 51 millions de dollars pour la SNELD et 4 millions pour la Régie des Eaux. Le Premier ministre Adolphe Mouzito était à la même table mercredi dernier avec les administrateurs, directeurs généraux de la Régie des Eaux et de la SNELD, des sociétés de l'État chargé de la fourniture d'eau et du courant électrique. Le souci du chef du gouvernement congolais, estimé à ces deux responsables, est de voir des améliorations dans la desserte en eau potable et en électricité dans la capitale congolaise. La retombée de cette rencontre se font sentir déjà parce que un programme des sommes urgences pour stopper la dégradation de la desserte en eau et en électricité à Kinshasa a été lancé hier jeudi par le ministre de l'énergie Gilbert Tshiongo, estimé à plus de 51 millions de dollars pour la CNEL et plus de 4 millions de dollars pour la Régie des eaux. Ce programme vise à stabiliser la situation de la desserte. Il applique des solutions adéquates aux perturbations qui se posent dans la distribution de l'électricité pour une amélioration rapide. Durée d'exécution de ce programme, 7 mois. Les détails avec Jeff Ngoy.
Au niveau de la CNEL, plusieurs mesures sont prises, notamment la remise en service de différentes machines actuellement à l'arrêt dans les centrales hydroélectriques Dinga 1, 2 et Zongo. À la distribution, la remise en service du transformateur du poste Lingwala et l'installation du nouveau transformateur du poste Funa. De même, au niveau de la Régie des eaux, Gilbert Tchongo annonce, entre autres, l'amélioration de la desserte en eau potable dans la partie ouest de la ville qui comprend les communes de Ngaliema, Selemba ou Mongafula. Depuis hier soir, selon lui, le groupe de Zongo a été remis en service, ce qui aurait entraîné la réparation de la panne âgée de 2 ans au quartier Sikin. Le ministre explique ce qui différencie ce programme des autres réguliers.
Le suivi régulier, hebdomadaire, l'évaluation et la relance par une cellule mise en place. La campagne spéciale de communication qui va accompagner ce programme pour une meilleure traçabilité et transparence sur la gestion des pannes et leur réparation pour atténuer le délestage et réduire le gêne occasionné. La publication des programmes de délestage, l'heure du début et de fin, les pannes et leur réparation, la prise en charge des réclamations des clients avec des numéros verts à utiliser pour communiquer avec la CNEL et la Régie des eaux.
Un acte d'engagement est ainsi signé entre les responsables de la CNEL, de la Régie des eaux, le gouverneur de la ville et le ministre de l'énergie.
Bienvenue Marie Bakoumania. Le problème du courant électrique et de l'eau se pose avec acuité depuis toujours dans ces pays et qui pourtant a un potentiel, un des potentiels électriques les plus importants du monde et qui est un des pays qui regorge un nombre impressionnant de cours d'eau du monde. N'est-ce pas un paradoxe?
Ben, c'est un paradoxe, c'est l'absence de vision. Hein, il faut constater que le site d'Inga, par exemple, avec ses 44 000 MW de potentiel, est à l'état sauvage pratiquement. Il n'y a que 1700 MW qui sont actuellement disponibles, qui peuvent être disponibles, d'autant plus que les machines ne sont pas à l'état de fonctionner. Moi, je suis écœuré quand j'écoute comme ça que les gens disent pour ce programme d'urgence, il faut 51 millions de dollars et comme par un coup de baguette magique, un groupe à Zongo a été réparé. Non, ce sont des choses qui sont connues de tout le monde. Le problème de la CNEL, le problème de la distribution du courant, parce qu'il faut dire et reconnaître également que la Régie des eaux connaît moins de problèmes, mais la CNEL pose vraiment problème à la population de Kinshasa. Pendant plus de plusieurs mois, il y a des quartiers, par exemple ce mois à Kitambo, c'est 4 mois qu'on n'a pas de courant. Et pendant 4 mois, le gouvernement n'a rien fait, on n'a pas réfléchi. Il a fallu que les médias, notamment le potentiel, en fasse vraiment une affaire qui est le président, qu'on puisse insister là-dessus pour qu'on puisse voir le gouvernement se réveiller. Non, c'est pas sérieux. On a comme l'impression que le pays n'est pas gouverné. On a comme l'impression que ceux qui sont aux affaires n'ont pas de vision pour le pays. Avec ce potentiel, nous pouvons desservir l'Afrique entière. On est capable. Et avec ce potentiel qui existe et valorisé, on peut avoir un budget de l'ordre de 10-15 milliards parce que le secteur de l'énergie seulement, l'électricité seulement, peut apporter plus ou moins 5 milliards de dollars au trésor public. Ce sont là des données qui font que si l'on a une vision pour le pays, si l'on a une manière de conduire le pays vers un développement réel, on investirait plutôt dans ce secteur-là. Ces chantiers, malheureusement, c'est un chantier qui peine toujours à démarrer par rapport aux routes, mais c'est un chantier qui peut entraîner une grande production et qui peut entraîner le fait que le trésor public puisse gagner suffisamment d'argent, de l'argent additionnel, parce que si on rentabilise le secteur de l'électricité, on peut augmenter de 3% les produits intérieurs bruts. Ce sont des données qui sont peut-être rien pour certains, pour ceux qui croient que les affaires c'est le cuivre, c'est seulement le cuivre, les diamants et les autres, mais pour ceux qui ont le souci d'avoir un marché intégré en République démocratique du Congo, un marché qui peut amener à ce que la CNEL devienne une multinationale parce qu'elle a la capacité d'exporter de l'électricité, ceux-là, ils sont très peu nombreux. Et malheureusement, c'est comme si tout est fait suivant un schéma qui voudrait que l'on démontre que la CNEL est incapable de faire quoi que ce soit, que la Régie des eaux est incapable de faire quoi que ce soit, et ceux qui sont en train de conduire la politique donnent raison à ceux qui proposent la privatisation.
Bernard Mouillé, les échos des Grands Lacs, qui est votre journal, a fait aussi beaucoup de bruit par rapport à ça, mais rien ne change. Bienvenue Marie Bakoumania parle de l'absence de vision. À votre avis, le problème est lié à quoi? Un manque de vision ou un manque de moyens?
Je pense que le problème est lié à tous ces éléments réunis, mais aussi à une capacité de pouvoir mettre en œuvre une politique cohérente, ordonnée. Vous savez, moi, je me réfère à quoi ? Moi, je me réfère au programme de cette santé de la République en son volet eau et électricité. Voilà, nous avons eu un candidat à la présidence de la République qui nous a présenté son programme, qui s'appelle Saint-Chantier. Et que dit-il ? Il dit ceci. Pour l'eau et l'électricité, concernant uniquement la province de Kinshasa, parce que le Premier ministre vient de faire cette semaine, ça concerne uniquement Kinshasa. Eh bien, qu'est-ce qu'on promet à Kinshasa ? On promet à Kinshasa d'initier 33 projets pour l'eau, pour un total de 339 982 dollars. 339 millions de dollars pour tout ce mandat, de façon à permettre d'augmenter sensiblement et d'améliorer la desserte en eau pour Kinshasa. Qu'est-ce qu'on promet à Kinshasa pour l'électricité ? On promet à Kinshasa pour l'électricité un total de 11 projets portant sur 1 milliard 305 000 dollars. Cela permettrait de faire passer la desserte à 40,7% jusqu'à 73% d'ici 2011. Nous y sommes déjà. Qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons que rien de tout ça n'a été fait. Aujourd'hui, on nous parle
dans le cadre de
55 ce qui a été promis. Or, aujourd'hui, on nous parle qu'on va débloquer juste 51 millions de dollars
pour la SNEL.
Pour la SNEL, là, on avait promis 1 milliard 300 millions. Vous voyez que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et on va débloquer 4 millions. Là, on avait promis presque 400 millions de dollars
pour la
régie des eaux. Lorsque nous regardons le dernier rapport sur l'état de l'économie qui a été publié par la Banque centrale, nous constatons que c'est sur l'ensemble du pays, depuis 2006, que ce soit au niveau de l'eau ou de l'électricité, tous les chiffres sont en berne, c'est-à-dire ça va en train de baisser. Donc, je ne vais pas donner tous les chiffres, je sais l'économie embête généralement la tête. En 2006, nous sommes, pour l'électricité, rien qu'un exemple, nous sommes à milliers de mégawatts, nous sommes à 2335,68. En 2007, nous baissons à 2402. En 2009, nous sommes à 2335. Donc, nous faisons que le rapport de la Banque centrale sur l'état de l'économie, sur qu'on regarde la position de l'eau, c'est également pareil. Donc, je constate que le président de la République a fait des promesses, il a confié l'action de son gouvernement à deux premiers ministres successifs qui n'ont pas su traduire ce programme dans la réalité, malheureusement.
Baba Isaac Kalonji, en Bougimaï, où vous vous trouvez ? Comment se présente la situation ? Apparemment, nous venons encore une fois plus de perdre Baba Isaac Kalonji. Bienvenue, Marie Bakoumaya. Le Congo très agile envisage de nous vendre le courant électrique. Comment vous réalisez
C'était un retour de flamme qui devrait faire rougir les ceux qui sont aux affaires en RDC. Le Congo Brazzaville a une vision. Il n'y a pas longtemps, ils dépendaient de la RDC à travers Inga, et aujourd'hui, ils ont leur barrage d'Imboulou. Nous pouvions faire de même. Le problème qui se pose en RDC, c'est quoi ? C'est le problème des commissions. Aujourd'hui, le barrage d'Inga, avec les groupes qui sont à l'arrêt, avec les promesses non tenues de la Banque mondiale, le barrage d'Inga ne produit que, je crois, le tiers de sa capacité installée. Et ça va poser problème. Il manque encore une ligne d'Inga vers Kinshasa pour transporter l'électricité. Ça va encore poser problème. Et même là, si nous avions des divisions visionnaires, au lieu de demander à la Banque mondiale, de solliciter la Banque mondiale la construction d'une ligne de 250 MW, mais il faut plutôt demander à ce qu'on construise une ligne de 700 MW, parce que bientôt là, les besoins à Kinshasa vont exploser de manière exponentielle, parce que l'économie est en train, les chiffres l'attestent, l'économie congolaise est en train de connaître une croissance. Donc les besoins vont s'augmenter. Et les divisions, s'ils étaient visionnaires, ils n'allaient pas se contenter de 250 lignes, une deuxième ligne de 250 MW dans les 10 années qui vont venir, ça sert encore à avoir une autre ligne. quand à la dissolution dans la ville de Kinshasa, il y a un vrai problème. C'est un problème de management. Au niveau de la SNEL, il y a un déficit de management évident. Moi, je m'étais dit, quand le Premier ministre avait reçu les décisions de la SNEL, moi, je me dis, je ne vois pas comment est-ce qu'il a pu, comme ça, les caresser dans le sens de poil. La meilleure manière de se comporter pour le Premier ministre, s'il avait évidemment effectivement, il a effectivement les mains libres, c'est de remercier ces messieurs et dames qui font de la propagande à la télévision à longueur de journée, alors qu'en réalité, ils n'ont aucun travail prévisionnel. Et ce travail prévisionnel n'étant même pas pensé, on n'est pas étonné de constater que quand un transformateur pète, il n'y a plus rien, toute la ville est dans le noir.
Baba Isaac Kalonji, à Mbujimayi, vous trouvez comment se présente la situation des dessertes à courant électrique et à l'eau potable?
Estimé confrère, je suis très peiné et même bouleversé par les confrères de Kinshasa, mais pas de la ville province de Kinshasa. Et puis, les électeurs ne vont pas voter seulement à Kinshasa pour donner le mandat à un président, à un député ou à un sénateur. On vote à travers le pays. Et le problème crucial de fourniture en eau potable et en électricité est national. Et que toutes les prévisions jusqu'à présent, tous les conseils qui sont intervenus, parlent des coupures à Kinshasa, parlent de la mauvaise fourniture d'eau potable à Kinshasa, et ils ne voient pas l'ailleurs le pays. C'est malheureux et dommage. Et celui qui a fini le PDG, sinon les régies des eaux, a fait 30 ans de gestion à la régie des eaux. Qu'a-t-il fait quand il gérait, qu'il n'a pas pu faire maintenant, qu'il veut faire? C'est ça la difficulté. Il est ministre. Et que quand il réunit des entreprises pour parler, il ne faut pas nous donner des slogans ou triomphalistes.
Allô? Apparemment, le problème continue à se poser. Bernard Mbouilly, parmi les mesures prises, il y a la remise en service des différentes machines à l'arrêt à Inga 1, 2 et Zongo. Et avec pas vu, 51 millions pourraient suffire parce qu'on sait que d'autres problèmes qui se posent, c'est la vétusté des câbles. Hein, tout le réseau est vétuste, il doit être entièrement renouvelé. Et avec ça, on risque de solutionner les problèmes seulement en amont et pas en aval.
Non, j'en ai parlé tantôt. Je dis ceci, le programme chef de l'État qui s'était basé sur les données fiables fournies par les experts de la SNEL et du ministère de l'énergie et de la régie des eaux avait prévu, rien que pour la ville de Kinshasa, si on veut stabiliser le courant, améliorer la desserte en courant électrique et pouvoir faire passer cette desserte de 40 à plus de 73%, il était programmé 1,3 milliard de dollars. Donc quand on débourse, on promet 51 millions, c'est franchement dérisoire. Mais concernant ce que Baba Kalonji vient de dire tout à l'heure, moi j'aimerais dire quelque chose. Moi je viens du Kassai occidental. Nous ne parlons pas que de Kinshasa. Moi je viens du Kassai occidental où j'ai passé 4 mois. Vous n'avez jamais vu une ville aussi obscure que le Kassai occidental. L'ex-Louabou, je crois que si on faisait revenir à Kananga, qui s'appelait Louabou à l'époque, qui était pressenti pour être la capitale du Congo à l'indépendance, si on fait revenir les Belges qui ont habité cette ville en 1960, qu'on leur dit que c'est la même ville, ils ne peuvent pas croire. Il y a eu une tragique farce. Une petite organisation belge a installé sur la rivière Louloua une petite centrale hydroélectrique devant produire que 500 kVA, c'est-à-dire même pas un mégawatt, la moitié du mégawatt. On a vu de nombreux dignitaires du régime jusqu'à des sommets pratiquement de certaines institutions se rendre à Kananga avec l'orchestre Les Bayoudas du Congo, aller tenir, faire une fête au stade, chanter la réunion de Saint-Francis. Et dès que le courant a été lancé, rien que pour servir l'hôpital général et quelques petits endroits, le courant n'a tenu que 2 heures du temps et puis il est reparti jusqu'aujourd'hui. Et on a recommencé les travaux à zéro, mais c'est une tragique chance qui se passe dans cette ville-là. Et on va nous parler qu'il faut que les gouverneurs soient licenciés. Non, parce que tout le monde n'est pas licencié, il existe très bien cette province.
Merci, nous passons à notre dernier thème de ce soir. La base militaire de Kitona, à 10 km de la cité de Mwanda dans la province du Bas-Congo, est rouverte à la formation des sous-officiers FARDC depuis mardi dernier. Cette école militaire qui avait cessé de fonctionner depuis 1997 est réhabilitée grâce au financement de l'Union européenne par la commune de l'ESSEC et sa mission des conseils et d'assistance en matière de réforme du secteur des sécurités en République démocratique du Congo. La France, qui parraine la formation, fournit aussi l'assistance technique. La cérémonie s'est déroulée mardi dernier à Kitona même. Innocent Olinga.
C'est une ambiance d'ouverture et de formation qui a manqué à la base du Kitona depuis plus de deux décennies à cause des perturbations politiques qui règnent dans le pays. Grâce à l'appui de la coopération militaire française, 230 sous-officiers vont être formés en premier temps pendant 6 mois. Ce qui réjouit les ministres de la Défense, Mondo Simba.
Notre école aura pour rôle de donner aux jeunes sous-officiers défendus la capacité de commander, d'organiser des cours, une série fonctionnelle ou un groupe d'une dizaine d'hommes, les connaissances du milieu militaire dans lequel il va évoluer dans la première partie de sa carrière, les aptitudes physiques et intellectuelles, ainsi que l'éthique propre à sa catégorie.
Mais pour l'ambassadeur Défense, pays qui parraine la formation, beaucoup de besoins se font encore sentir pour obtenir une école excellente à Kitona où, hormis la formation générale des sous-officiers, il est aussi prévu des formations spécialisées en infanterie et en artillerie.
Baba Isaac Kalonji, un journaliste et analyste indépendant évoluant en Bujima et au Kasaï oriental. Une des bases les plus importantes du pays depuis l'époque belge, la base de Kitona, a été réhabilitée. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris cette nouvelle?
Je suis content de la réouverture de la base, d'abord pour deux raisons que voici. La première, le recrutement de nos éléments s'est fait d'une manière empirique. On a su l'ensemble du marché, qu'on a su mettre dans l'armée et même dans la police. Si on ouvre ce centre, je crois que la procédure normale serait que les enfants recrutés soient régulièrement formés et que demain nous ayons l'armée républicaine. Je suis content. Une idée qui est tombée est bien à propos. Attendons voir ce que cela va donner. Si c'est pour la campagne qu'on l'a fait, on ne sait pas. On attend voir.
Bienvenue Marie Bakoumania, vous êtes directeur de programme à Télé 7 et rédacteur en chef du journal Le Potentiel, un groupe de presse qui est basé ici à Kinshasa. Un expert militaire a affirmé que si la formation militaire est accompagnée de l'acquisition des équipements, la RDC pourrait devenir une puissance militaire régionale.
Oui, absolument, absolument. On a les potentiels humains, on a également les compétences qu'il faut. On a des officiers qui ont étudié dans les grandes académies à travers le monde. Il faut dire que le dysfonctionnement est tel que les degrés de désintégration de l'État, les degrés de déliquescence de l'État, il faut commencer par refonder l'État. C'est ça le vrai débat, le vrai chantier pour la République démocratique du Congo, c'est la refondation de l'État. Ça devait être même le chantier des chantiers, l'unique chantier d'ailleurs à mon sens. Et pour refonder l'État, le socle, c'est l'armée. Tant qu'on n'aura pas une armée, tant qu'on n'aura pas les services de sécurité outillés, tant qu'on n'aura pas une police professionnelle, on ne pourra jamais alors penser la refondation de l'État. Qu'on réhabilite un centre comme celui de Kitona, c'est déjà un pas vers la bonne direction. Et il faudrait plutôt maintenant qu'on puisse réhabiliter tous les centres à travers le pays. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le chantier maire. Si on réhabilite tous les centres à travers le pays, l'armée professionnelle dont on a tant besoin est mise en place, le schéma de la reconstruction de la République démocratique du Congo pour faire de ce grand pays une puissance régionale va s'ouvrir et nous allons nous y engouffrer et les résultats ne tarderont pas à se produire rapidement. On a vu avec des pays comme l'Angola qui a mis en place une armée rapidement, qui a mis en place une armée professionnelle. On a vu des pays, il ne faut pas avoir honte de reconnaître les mérites des autres, des pays comme le Rwanda avec Paul Kagame qui a mis en place une armée et on a un gouvernement, on sent que ces pays-là sont réellement gouvernés. Tandis que nous, tout est encore en train de vaciller. On ne sent pas que le pays est gouverné.
Bernard Mouilly, vous êtes éditeur du journal Echo des Grands Lacs, c'est un hebdomadaire paraissant ici à Kinshasa. Des manœuvres militaires pourraient même être envisagées avec les pays de la sous-région si toutes les infrastructures sont réhabilitées.
Bien entendu, c'est l'une des conditions lorsqu'il faut entretenir en permanence la combativité d'une armée. Parce qu'en fait, il faut saluer la réhabilitation de la base de Kitona, de même d'ailleurs que celle de l'école de formation des officiers de Kananga. Il faut en cible. Mais il ne suffit pas de former de bons militaires, il ne suffit pas de former de bons combattants, il faut entretenir leur combativité en permanence. Et ça, ça se fait avec des manœuvres organisées, non pas de façon ponctuelle, mais de manière tout à fait régulière. C'est très important. Quelque chose qu'il faudrait aussi ajouter, je crois, il faut insister sur le recrutement. J'ai vu ici pour les faux, par exemple, les publicités à la télévision, qui appellent les jeunes sous le drapeau à certaines conditions. Nous devons coûte que coûte éviter les erreurs du passé. Vous savez, moi, j'ai passé ma jeunesse, mon enfance, mon adolescence à Kananga. Les faux étaient à Kananga, mais les enfants de Kananga qui voulaient y entrer devaient modifier leur nom au diplôme d'État pour que leur patronyme puisse avoir la consonance de l'Équateur pour pouvoir entrer à l'IFO. Donc l'IFO était à Kananga, mais la majorité de ceux qui étaient venaient de l'Équateur. Et on empêchait les autres provinces de pouvoir y accéder. Donc je ne préjuge pas que ce gouvernement va faire également, non. Mais je veux dire que c'est des genres d'erreurs, de fautes qu'il faudrait éviter si nous voulons vraiment la renaissance de notre armée.
Merci, c'est la fin de l'émission. Dieudonné Nyangasa était à la technique, Alain Hirong à la réalisation assistée de Samuel Kachak et de Kevin Coupé, sous la supervision de Martin Seboujangui, de Martin Kro, Guy Maté. Merci et bonne suite du programme sur Radio Okapi. Thank you.